19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, bonjour, bienvenue à vous tous. C'est parti, vous le savez, pour les informés. Nous sommes mercredi. Et au menu de ce soir, durant une heure jusqu'à 20h, eh bien, nous sommes ensemble. Oui, comme d'habitude, vous le connaissez le principe maintenant. L'invité de 19h, Karim Alouache. Et son exclusion, on en parle tout à l'heure, de LREM. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000 pour commenter l'allocution d'Emmanuel Macron qui fait débat. Était-il en campagne? Était-il perçu comme un candidat en campagne? Ou tout simplement, est-ce que c'était le président de la République qui parlait et qui faisait état de son bilan du quinquennat? Ensuite, le face-à-face. Eh bien, tout à l'heure, nous recevrons Jean-Félix Tikaïa, chercheur, Ismaël Eladri, militants associatifs qui viendront le confronter leur point de vue. Voilà, vous le savez désormais, les informés, c'est maintenant et c'est en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
C'est parti pour démarrer cette émission, les informés, et bien l'invité actu.
Les informés, l'interview.
Et nous sommes avec Karim Alouache qu'on connaît, Karim Alouache qui est débatteur et par ailleurs, vous êtes l'invité. Bonjour Karim Alouache, bonsoir.
Bonsoir, merci
d'être avec nous. Vous êtes donc, vous avez été heurté donc jusqu'ici, vous étiez encarté auprès de LREM, juste que nos auditeurs comprennent. Et vous avez fait donc campagne. Vous avez évidemment, on va revenir sur cette actualité. Vous avez reçu une lettre de La République en Marche qui a signifié votre exclusion du parti. Alors, on va rappeler la genèse de ce qui s'est produit avant l'exclusion. Karim Alouache, que s'est-il passé? Vous représentez LREM sur la Seine-Saint-Denis, et plus précisément sur la ville de Bondy.
Oui, là, tout à fait. Donc j'étais animateur local. J'ai rejoint Emmanuel Macron en 2016, suite à son discours de lancement de campagne à Bobigny, si vous vous souvenez bien.
Très bien.
Et je l'ai rejoint pour une raison qui, pour moi, était importante. C'est son engagement de rompre avec les vieilles méthodes des anciens partis politiques, c'est-à-dire fini les ententes, fini le copinage, fini les bagouilles, fini les parachutages, d'autant plus qu'il indiquait que la Seine-Saint-Denis, qu'il comparait à une Silicon Valley, était pleine de pépites et de jeunes pépites et qu'il fallait faire émerger cette société civile. Donc, j'ai mené campagne pour Macron et ensuite pour les législatives, etc., pour accompagner le mouvement.
Oui.
Suite à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qui m'avaient au début interpellé, et notamment dans les statuts, qui était indiqué que le responsable départemental n'était pas élu par les militants, mais était désigné par le siège. Je trouvais ça pas très démocratique. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé de signer des statuts lorsqu'ils ont été votés.
D'accord. Bon, jusqu'ici, on comprend.
Voilà, donc c'est déjà un peu c'est la première chose qui m'a interpellé.
Oui.
Ensuite arrivent les municipales où, naturellement, étant élu à Bondy et président d'un groupe, je fais une demande d'investiture. Et puis là, rien ne se passe comme prévu, puisque dans ma ville, sous l'impulsion d'un sénateur PS, je ne suis pas investi, mais aucun candidat n'est investi à Bondy, ni tête de liste, ni chef de file. Donc, nous, membres du mouvement, nous comprenons.
Donc, vous posez la question et vous interrogez à ce moment-là, effectivement.
Voilà, exactement.
C'est légitime de votre part de se poser la question, pour quelles raisons vous n'avez pas été investi? C'est vrai que...
Je ne suis pas investi, mais pour quelles raisons aucun candidat et LREM est investi à Bondy?
À Bondy,
Et donc,
alors que vous êtes légitime sur Bondy, puisque vous y êtes, quoi, et vous connaissez la ville.
Voilà, et puis moi, je suis quelqu'un d'entièrement ouvert. S'il y a un meilleur candidat que moi... pourquoi pas? Mais là, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne met pas de candidat. Donc, en fait, je découvre que LREM va soutenir le candidat du sénateur PS Gilbert Roger, qui ne fera autre que se rallier au deuxième tour au maire actuel de Bondy, mais qui fait l'objet, d'une annulation d'élection au maire LR l'équipe LR-UDI, ce qui est vraisemblable. Et là, je me remémore les engagements d'Emmanuel Macron de rompre avec toutes ces vieilles pratiques de copinage.
Et là, vous apercevez effectivement que rien n'a été rompu et que bien au contraire, voilà, les jeux se sont plutôt renforcés. Je pose la question.
Et puis là on est complètement aux antipodes des engagements, même dans d'autres partis politiques, ça interpelle. Et là, ça provoque une première rupture. Sans suisse que vous savez sur mon histoire, je vais quand même tenir un bureau de vote en tant qu'élu parce que je voulais aller jusqu'au bout de mon mandat. Et 10 jours après l'élection, j'étais dans le coma suite au Covid grave et j'en sortirai un mois après. Et après 2 mois d'hôpital, je regagne la maison. Si vous vous souvenez, à l'époque, j'avais pris l'engagement d'arrêter la politique.
Vous l'aviez annoncé vous-même, rappelez-vous, ici même, sur Beurre FM.
Et moi qui rêvais d'un idéal politique, qui était, entre guillemets, l'idéal et l'engagement d'Emmanuel Macron, je me retrouvais, je dirais, désavoué une première fois par la Commission nationale d'investiture et une seconde fois terrassé par le Covid. Et puis, bon an, mal an, je me suis refait un peu une santé. Je me suis dit qu'il fallait pas lâcher parce que la gestion de ma ville était aujourd'hui chaotique.
Oui, chaotique.
Chaotique au sens tout ce qu'on peut détester dans une gestion de ville et dans une politique y est présente de près ou de loin. Moi je suis toujours là pour essayer de m'engager, faire évoluer et tirer ma ville vers le haut. Arrivent les élections régionales et départementales. Et à ma grande stupéfaction, j'apprends. Alors, j'ai appris que je n'étais pas investi au municipal, pas par LREM, mais par l'UDI.
Oui.
Imaginez.
Bon. Oui.
Et là, j'apprends par les LR dans ma ville que au niveau
sur la ville de Bondy, oui.
Au niveau des élections régionales, eh bien, on allait. LREM avait parachuté une Parisienne comme tête de liste. Et comme vous le savez,
est-ce que vous le saviez ça?
Je l'ai découvert par les LR, ce qui m'a été ensuite confirmé, alors qu'à ce moment-là, je dois dire que la campagne aux investitures n'était même pas ouverte. Et là, je me suis dit, mais on est totalement à l'opposé, aux antipodes des promesses d'Emmanuel Macron d'en finir avec...
Et ça vous a agacé. Et c'est là que les problèmes commençaient à vous agacer, et c'est là que les problèmes commencent pour vous.
Là, je dirais... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Et alors, vous faites quoi? Vous décidez d'interpeller le siège? Alors, vous décidez d'interpeller l'état-major?
Avec un groupe d'amis, avec un groupe de marcheurs de la première heure, nous décidons de mettre fin à ces pratiques et donc nous alertons.
Vous alertez qui?
Un bulletin d'alerte, le délégué général, donc Stanislas Guérini.
Oui, Stanislas Guérini.
Le candidat lui-même, Laurent Saint-Martin, et le président de la République.
Oui.
En disant, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe à Bondy, c'est un mépris pour la Seine-Saint-Denis, vous avez mis en place le système des 1000 talents, et puis finalement, pour faire émerger des talents, et finalement, on est dans la politique du copinage, des parachutages, etc. C'est pas possible. Et nous ne l'acceptons pas. Et nous, de l'intérieur, nous assumons et nous dénonçons. Et nous avons dénoncé, donc. Mais malheureusement...
Oui.
Comme à l'habitude, j'ai envie de dire, zéro réponse. Personne ne nous répond. Et nous avons quand même des engagements vis-à-vis de la population de la Seine-Saint-Denis, vis-à-vis des jeunes. On se doit d'être, je dirais, exemplaire.
Oui.
Et c'est pour ça. Moi, je le dis, j'ai rejoint Emmanuel Macron, j'ai rejoint son engagement de rompre avec l'ancien monde, de faire la politique autrement, d'intégrer la société civile. J'ai pas signé pour des parachutages.
Oui.
J'ai pas signé pour du copinage.
Oui.
J'ai pas signé pour des accords entre copains, entre anciens amis du PS ou de je ne sais où.
Oui.
Et on l'a dénoncé. Et on l'a dénoncé.
Donc vous le dénoncez auprès de évidemment de l'état-major du parti, donc voilà. LREM.
Et sans réponse.
Et vous avez alors vous avez pas de réponse pendant combien de temps?
Ah ben, jamais eu de réponse jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce jour, d'accord.
Jamais eu de réponse. Pour tout vous dire, moi j'ai aussi, on a aussi interpellé les cadres du siège de la République en Marche, le responsable politique, le responsable de pôle territorial, le responsable de la campagne des régionales. Hein. On a vraiment alerté tout le monde. Rien. Donc la seule chose que nous pouvions faire, que nous puissions faire, c'est prendre notre alerte et alerter au travers d'un média.
D'un média. Et là vous décidez d'écrire une tribune, si j'ai bien compris. D'ailleurs, on en avait parlé.
En fait, on n'a pas rédigé notre tribune. On a pris notre bulletin d'alerte et le journal L'Opinion, le 2 juin, a publié notre alerte, et c'est le texte, c'est exactement ce que nous avons écrit au président de la République, aux responsables politiques, aux candidats aussi, en lui disant, c'est une trahison vis-à-vis de la parole politique donnée. En 2016.
Donc, quand vous publiez cela, évidemment, dans l'Opinion, le journal L'Opinion, vous avez reçu, est-ce que vous avez reçu un appel de la direction? Rien du tout?
Rien.
Et à ce moment-là, vous vous doutiez pas, vous vous êtes pas interrogé si.
Non, du tout, d'accord. Parce qu'en fait, on a eu un comportement, je dirais, voilà. Nous, on a fait jouer notre droit de lanceur d'alerte, hein, vous savez, hein. Aujourd'hui, on est censé être protégé quand on est un lanceur d'alerte. Moi, je suis désolé, mais La République En Marche ne respecte pas les engagements du président. On alerte. Et puis, je vais préciser une chose quand même. Nous n'avons fait campagne pour aucun candidat au régional. Nous n'avons pas fait campagne contre le candidat de l'REM. Nous sommes purement et simplement sortis de la campagne.
D'accord.
Et nous n'avons rien fait, mais nous avons, vis-à-vis des citoyens et de la Seine-Saint-Denis, nous avons fait le job d'alerter officiellement au travers d'un média.
D'un média.
Nous étions 12. Nous sommes 12 à avoir signé cette tribune. Hein.
12. 12 personnalités locales.
12 responsables locaux de la République En Marche.
De Bondy ou de d'autres villes?
De toute la Seine-Saint-Denis.
De toute la Seine-Saint-Denis.
Il y avait des responsables de ville.
Et les douze, et aujourd'hui, vous êtes confronté à un courrier que vous avez reçu. Qui signifie que vous avez été viré, c'est ça?
Voilà. Alors, à notre grande surprise, le 7 octobre, nous sommes 2 sur les 12 à avoir été convoqués à une commission de discipline.
Et pourquoi 2 sur 12?
Pour cette tribune. Eh bien, nous avons posé la question à la commission. Et la commission nous a répondu, je ne sais pas, nous, c'est le bureau exécutif qui nous a demandé de vous convoquer, on vous convoque. Donc nous avons dit, écoutez, vous nous convoquez pour une tribune d'alerte, nous l'assumons, mais je vous rappelle que nous sommes 12, donc pourquoi seulement Morad et Karim sont convoqués et pas les 10 autres signataires? Ils n'ont pas su nous répondre. Donc nous avons expliqué, nous avons assumé.
Vous avez été deux virés, deux parmi les 12, quoi. Donc.
Voilà.
Et on n'a pas su vous répondre. Aucune réponse concrète sur les 10 autres.
La commission n'a pas la réponse. Et la commission nous a dit, écoutez, c'est le bureau exécutif qui nous a dit de vous convoquer, vous deux.
Mais aujourd'hui, alors, dans quel état ça vous met, Karim Alouache?
Ça me scandalise.
Oui.
Ça me scandalise pour deux raisons. Alors, moi, j'assume, je suis très fier d'avoir alerté, je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un qui ne rentrera jamais dans la politique du vieux monde, jamais dans le copistage, jamais dans les choses. Moi, je respecte toujours la parole donnée. Et si je ne peux pas la respecter, eh bien, je me retire. J'ai combattu, j'ai essayé de lutter au maximum, malgré mon Covid, malgré tout ce qui s'est passé, malgré certaines sollicitations pour attaquer le gouvernement, comme beaucoup le font, suite à un Covid grave. Je vous rappelle que j'ai eu le Covid grave en tenant un bureau de vote. Et on l'a tenu sans masque. Je ne vais pas refaire la polémique de la gestion des masques, mais on est allé au casse-pipe.
C'est important de souligner ça.
Et j'ai pris l'engagement vis-à-vis des Français, parce qu'il n'y a pas de raison, que ce ne soit que la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de raison qu'on accepte ce genre d'hérésie.
Et ça ne passe pas chez vous, ça, si j'ai bien compris. Hein.
Je ne sais pas si ça passe ou pas. En tout cas, clairement, il y a des gens qui voulaient sortir du mouvement, Karim et Morad, parce que peut-être qu'on est des trop grandes gueules, parce que peut-être qu'on dit trop la vérité, parce que peut-être que l'on est trop intègre vis-à-vis de nos engagements, et je dirais, eh ben, c'est tant mieux. Ce qui me choque aujourd'hui, j'assume cette tribune,
oui.
Et ce qui choque mes co-signataires, c'est que nous sommes que deux à avoir fait l'objet d'une commission de discipline, et nous sommes deux à avoir été exclus.
Mmh.
Les autres n'ont même pas été convoqués dans une commission.
Qu'est-ce que vous comptez faire, Karim? Parce que je vais devoir lancer la pub et on arrive au terme de cette interview concernant évidemment votre situation. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais, Karim Alouache? Est-ce que maintenant que vous avez reçu ce courrier qui signifie que vous êtes viré, c'est ça, hein, de LREM? Qu'est-ce que vous comptez faire?
Je vais d'abord continuer le combat politique à Bondy, puisque comme vous le savez, on va revoter à Bondy. Et ça, je n'ai jamais arrêté. Localement, je vais faire le maximum pour essayer de sortir ma ville de la situation difficile dans laquelle elle est actuellement. Continuer à travailler pour les citoyens, continuer à travailler pour la diversité, parce qu'il faudra un jour qu'on m'explique pourquoi que Morad et Karim sont exclus ou font l'objet d'une commission et pas les autres. Et puis continuer pour que les talents du territoire puissent un jour émerger. Vous savez, faire de la politique sur un territoire, la première chose, c'est d'y vivre. Et aujourd'hui, nous avons une conseillère régionale, enfin, l'ARM a une conseillère régionale,
oui,
chez nous, parce que je n'y suis plus, et ça ne me pose aucune difficulté.
Donc aujourd'hui, vous représentez vous-même, si j'ai bien compris, hein, Karim.
Aujourd'hui, je représente les citoyens qui ont envie de mener, de poursuivre ce combat de la société civile et de s'impliquer en politique. Et je dois dire que LREM aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, a une conseillère régionale qui vit à Paris et pas en Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est un vrai scandale, puisqu'elle a pris la place d'un talent de la Seine-Saint-Denis.
Bon, bah écoutez, on va suivre encore de nouveau cette actualité. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir effectivement fait état de ce qui s'est produit, évidemment, durant cette période, y compris lorsque vous êtes retrouvé fragilisé au niveau de votre santé. Merci Karim Alouache.
C'est moi qui vous remercie et on continue le combat et on ne lâchera rien.
Merci à vous. Merci Karim Alouache, donc de Bondy, concernant sa situation au sein du parti LREM. 19h17, avec quelques minutes de retard, on va lancer la pub. 01 53 48 3000. Qu'avez-vous pensé hier du candidat d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous l'avez trouvé plutôt candidat ou vous l'avez plutôt trouvé président qui s'adresse à la population, au peuple? 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, Les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h25 dans Les informés. Justement, nous allons parler avant de retrouver le quoi de neuf, le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec confronter les points de vue, justement, avec Jean-Claude Félix-Chicaillé, chercheur au sein de l'UPCE. Bonjour, mon cher Jean-Claude.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va?
Ça va,
c'est
merci.
Que vous avez la patate, là. Hein, c'est, bien. C'est bien, ça fait plaisir. En face de vous, justement, face à vous, pardon, Ismaël El Hadjri, le retour.
Bonjour, Adil.
On a le droit à Thomas Pesquet, on a le droit, nous, à notre Ismaël El Hadjri.
Ah, ça fait plaisir.
Vous étiez où? Je dans l'espace ou quoi? Vous étiez
j'attendais
où?
Que tu m'appelles.
Vous avez manqué. Vous étiez où dans l'espace avec Thomas ou quoi?
Écoute, j'étais dans l'espace, et puis après, je me suis dit, finalement, on se fait un peu chier dans l'espace.
C'est ce que dit Thomas Pesquet, c'est bien ce qu'il fait.
Mais
la terre lui manque quand même. Bon, militant associatif et plein de choses aussi, vous donnez des cours.
Notamment sur les questions d'antiracisme.
Exactement, sur les questions antiracisme. Messieurs, nous allons évidemment nous intéresser à l'allocution de Macron. Les Français, eux, vous savez quoi, ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont la perception, ils ont une idée d'avoir eu un candidat en pleine campagne, mais en même temps, ils disent que les annonces qui ont été faites, voilà, ils approuvent que... Voilà, bon, vous, comment l'avez-vous trouvé, Emmanuel Macron? Est-ce que ça a plutôt été... Parce qu'il a fait, évidemment, on reviendra sur ce qu'il faut retenir, hein, le chômage, la retraite... Le Covid, le pass sanitaire. Messieurs, comment avez-vous trouvé Emmanuel Macron hier? Avec une voix enrouée aussi. Hein.
Oui.
Je commence par Jean-Claude Philippe-Chicaillard.
Oui, une voix enrouée, mais ce qui n'avait pas du tout comme chat dans la gorge, où là, je suis en phase avec lui, c'est sur la troisième dose.
Oui.
Qui, je pense...
Il fallait mettre la pression.
Qui, je pense, s'impose pour... moi, je pense aux personnes, notamment à mes parents, mais aux parents de tout le monde. Et aux grands-parents.
Je vous soulevez une vraie question. Est-ce
que la troisième dose, oui, je pense.
Elle s'impose vraiment?
Oui, elle s'impose.
Elle s'impose.
D'ailleurs, en Allemagne, il n'y a pas de limite d'âge. Hein.
Ouais.
Tout le monde peut prendre la troisième dose. je pense que c'est une mesure de prévention, une santé publique.
Oui. Certains disent qu'on parle de pression.
Non, il y a. Il n'y a pas de pression, parce que la pression, c'est bien le Covid, c'est pas, là, le Macron n'est pas létal, c'est le Covid qui est létal. Hein, et, voilà, je pense qu'on a perdu assez de proches ou de personnes lointaines du Covid, donc il faut une troisième dose. Pour l'instant, on ne maîtrise pas encore cette pandémie. Et il est bien que ça commence pour les personnes de plus de 65 ans et après, ça va descendre. Voilà, il faut que, après, à chacun de...
150 000 rendez-vous aussitôt pris, hein.
Oui.
Une heure après son intervention.
Moi, je trouve cela tout à fait légitime, notamment pour les parents et grands-parents. Après, chacun le verra comme il a envie. Quand il a, le verra comme il a envie de le voir. En revanche, sur les mesures contre le chômage, là, malheureusement, depuis le début de son mandat, son nouveau monde,
il n'a pas mis
du tout une nouvelle façon de se confronter à la question sociale. Et il a mis un petit peu en accusation les personnes qui sont au chômage, et les personnes qui sont au chômage sont déjà dans une situation on ne peut plus mal. Les mettre sous pression et les acculer contre le mur et les assécher, ça va pas les aider sur le plan psychosocial, notamment pour retrouver un boulot. Je pense que là vraiment il commet une erreur déterminante, parce que c'est pas la première sur la question sociale, c'est un raté. On peut pas parler de nouveau monde si on rate la question déterminante de la question sociale. Après,
il s'est loupé
sur la question du nucléaire. Il y a deux façons de voir les choses. Pour l'instant, on n'a pas d'alternative assez puissante pour remplacer le nucléaire. Maintenant, il nous étonne quand même de faire cela aussi vite. C'était pas annoncé en 2017. Et pour finir sur les retraites, il revient sur ce qu'il avait dit dans son programme, notamment la limite d'âge. Il faut travailler un peu plus.
Ouais.
Donc il penche complètement à droite, que ça soit sur la question du chômage et sur la question de la retraite. Donc il dit qu'il n'exhume pas ce dossier, mais il l'exhume et il le fait pencher à droite toute.
À droite toute, justement, avant de retrouver le point de vue, celui d'Ismaël El Hadjri, parce que c'est 19h30, et qui dit 19h30, comme tous les jours, c'est le Quoi de Neuf. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, et on est à l'heure. Et comme chaque mercredi, c'est le docteur Majid Sioussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aux Invalides chez les militaires. Bonjour mon cher docteur Sioussine.
Bonjour docteur Adil.
On est à l'heure, vous le voyez. Hein.
Je vois, et puis vous dites à droite toute et vous me passez moi, les gens vont penser des choses qui ne croiront pas.
Vous ne perdez jamais le sens de l'humour. Votre billet d'humeur tourne aujourd'hui de l'infertilité. On vous écoute, mon cher docteur.
Mais écoutez, mon cher Adil, l'heure est grave. L'humanité est menacée de disparition, non pas à cause de l'islamisation rampante de la France ou de l'incompétence de ses dirigeants, non pas à cause du réchauffement climatique qui est le sujet de la semaine et de la semaine précédente avec la COP 344,5.
On est en l'an 3050 ou quoi là?
On approche doucement.
Allez-y docteur, allez-y.
Cette nouvelle COP où on assiste encore à une sorte de...
C'est des robots, non? C'est des robots qui sont dans cette COP? C'est qui? C'est des êtres humains ou des robots?
On se demande parfois. En tout cas, on assiste à une sorte de battle de déclaration des grands dirigeants du monde qui promettent tous plus les uns que les autres.
Les Robocop.
Adil, à ce propos, vous pourriez peut-être leur dire que ce n'est pas une campagne électorale et que c'est sérieux le changement climatique et que ça ne se résoudra pas par des promesses mais par des actes.
Oui.
Mais non, mon cher Adil, l'humanité est menacée par l'infertilité. La semaine dernière était la semaine de sensibilisation sur l'infertilité. Vous me direz, Adil, docteur, vous n'êtes pas concerné.
Oui.
Je vous répondrai, certes, Adil, mais vous non plus. Et d'ailleurs, je fais cette remarque à la demande de votre épouse. Désolé, mesdames, si je brise un mythe. Adil est un vénérable père de famille avec des enfants que l'on salue d'ailleurs, même si leur nez coule de temps en temps.
Ah là, il est bon le docteur, il est bon.
Mais non, mon cher, savez-vous que la concentration de spermatozoïdes a diminué de 50% en moins de 40 ans?
Mais non. En moins de 40 ans. En moins de 40 ans? Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, vous allez
50%, c'est énorme, mon cher docteur. Vous me faites flipper là.
Ça ne nous a pas empêché d'avoir 4 enfants, mais quand même. chez les hommes d'Amérique du Nord, d'Australie, mais aussi en Europe.
Ouais.
Et on observe aussi un nombre inquiétant de cancers du testicule qui est en nette progression.
Ouais.
L'infertilité, mon cher, c'est très simple. Dans un tiers des cas, c'est la faute de l'homme. Dans un tiers des cas, c'est la faute de la femme. Et dans un tiers des cas, c'est les deux parents qui sont responsables.
Ah.
Et dans 10% des cas, c'est comme dans le procès de Sarkozy, on ne peut rien dire.
Ouais.
Polluants, tabac, obésité, perturbateurs endocriniens, voilà les coupables de cette progression de l'infertilité. Mais le facteur le plus certain, c'est l'âge. La première maternité est de plus en plus tardive. 24 ans en 1974, 30 ans en 2017. Et une femme sur cinq accouche pour la première fois après 35 ans, alors que la réserve d'ovocytes diminue largement après 30 ans et qu'elle plonge après 35 ans.
Eh bien, dis donc, quelle anomalie !
Eh oui, et si vous ajoutez que les pères sont souvent plus âgés que les mères et qu'eux aussi subissent un vieillissement de leurs spermatozoïdes, qui sont de plus en plus porteurs de mutations létales de leur ADN, vous avez là une explication rationnelle du phénomène. Et du coup, on assiste donc à un recours de plus en plus important à l'aide médicale à la procréation.
Oui.
100 000 enfants en 2008, 200 000 en 2018.
Waouh.
Et c'est souvent un parcours du combattant pour pouvoir accoucher d'un enfant, puisque le taux de succès d'une FIV est inférieur à 30%. Ce qui reste tout de même supérieur aux chances d'Anne Hidalgo d'être présidente de la France ou d'Éric Zemmour d'avoir le prix Nobel de la paix. Il faudrait arriver à orienter plutôt les couples en échec vers l'aide à la procréation pour un succès plus grand. Mais Adil, mauvais esprit comme vous allez me faire remarquer que la plus grande infertilité n'est pas celle-là, mais plutôt celle de notre époque où le maître étalon est l'argent qui gouverne tout et la superficialité qui s'appuie sur la vulgarité. Et que peut-être nous devrions mener une réflexion sur ce qui a vraiment de la valeur.
Mmh.
Une carrière, l'accumulation de biens inutiles, ou alors la protection de notre planète, ou ces familles que nous devrions fonder plutôt aux dépens peut-être de nos petits plaisirs, mais avec l'assurance d'un autre type de joie. Pour moi, la réponse est claire. Faisons beaucoup d'enfants pour contribuer au grand remplacement.
Ça fera plaisir à Éric Zemmour. Dites-moi, j'ai une question, mon cher docteur. Quelle est la différence entre les différentes causes entre d'infertilité chez l'homme et chez la femme ?
Alors, je vous les ai données. Chez la femme, c'est surtout la maternité tardive, en fait.
Ah, voilà, d'accord. Ok, ok.
Puisque le stock d'ovocytes diminue.
Ok, ben vous l'avez dit, effectivement.
Voilà.
Ok, très bien.
Chez les hommes, c'est l'âge, les infections sexuellement transmissibles, mais je sais que votre morale est irréprochable. Cette cause se retrouve aussi chez les femmes.
Et alors, la différence pour nos auditeurs entre infertilité et stérilité ?
La stérilité, c'est l'impossibilité totale d'avoir des enfants, tandis que l'infertilité, c'est une diminution de la possibilité d'avoir des enfants, et ça inclut aussi la stérilité.
Vous allez finir chez Philippe Robuchon qui fait les émissions santé, vous. Hein.
Ah, qui sait, un jour peut-être, j'aurai cette chance.
Merci pour ce billet d'humeur sur l'infertilité. Très bien, très intéressant, effectivement. Et à mercredi prochain, sans faute, vous faites quoi demain ? Vous travaillez ou vous vous reposez un peu, mon cher docteur ?
Le repos n'est pas pour des gens de ma trempe, mon cher. Nous travaillons pour la patrie et pour les malades.
Et bien, bon courage, mon cher docteur.
Pensez à ma Légion d'honneur.
Voilà, je vais penser à votre Légion d'honneur, exactement. Docteur Majid Soucine, merci infiniment. À mercredi sans faute, 19h37. Nous marquons à très bientôt la pause et on se retrouve avec les sujets qui nous concernent, nous, non pas l'infertilité, mais Emmanuel Macron et son allocution. Et je donnerai la parole à Ismaël El Hadji. A tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkat.
Dernière ligne droite, il est 19h39 précisément, et je vais redonner la parole donc à, et de plutôt donner la parole à Ismaël El Hadji concernant cette histoire d'allocution d'Emmanuel Macron, mais surtout passe sanitaire, dose de rappel, pression, candidat, pas candidat, bilan du quinquennat. Et Ismaël El Hadji, comment vous l'avez vécu ?
Écoute, Adil. Moi, j'ai pas eu la chance d'être chef de service à l'hôpital, donc, enfin, sur la question de la troisième dose, on va dire que je me contente de faire ce que les professionnels de santé me conseillent. Mmh. En revanche, sur un domaine où j'ai plus un avis à donner, c'est plutôt sur l'allocution de Macron. Bon, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il est candidat, est-ce qu'il n'est pas candidat ? On le voit bien, il est candidat. Mmh. En revanche, la question que je me suis posée, moi,
qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est candidat ?
Bah, c'est 27 minutes d'intervention à moins de 6 mois de la présidentielle, et puis les sujets qu'il a abordés surtout. Faut quand même penser que la majorité des sujets qui ont été abordés, c'est des sujets éminemment politiques et qui n'ont rien à voir avec les enjeux de santé. Et du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est si Emmanuel Macron est candidat, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Alors, on l'a vu, il ne s'adresse pas aux familles populaires avec ce qu'il fait sur l'assurance chômage, il ne s'adresse pas non plus aux familles populaires avec avec je disais la réforme d'assurance chômage, il s'adresse pas non plus aux jeunes, on l'a vu, avec le plan d'engagement pour la jeunesse, qui est au final très pauvre, et au final, il parle à qui? Moi, je pense qu'il parle à la droite, et une certaine droite, en fin de compte, aux riches, on pourrait dire. Mmh. Macron est plus que jamais le président des riches, qui en veut aux chômeurs, qui ne fait rien pour les jeunes, qui prévoit une nouvelle loi, on ne l'a pas assez.
Vous allez loin, vous.
Il faut le dire, je pense, Adil.
Oui, bah vous dites.
Il a aussi évoqué une nouvelle loi sur la sécurité intérieure et il a répété, on ne compte même plus le nombre de fois, le mot travail. Mmh. Alors, moi, franchement, quand j'entends parler autant de travail avec une rhétorique aussi droitière, ça me fait penser à Sarkozy et franchement, ça ne me rappelle pas des bons souvenirs.
Ça ne vous rappelle pas. Jean-Claude de Félix Tchikaya.
Oui, c'est vrai que je suis d'accord sur le mot travail, d'ailleurs. C'était la structure. Anaphorique, voilà, c'est un anaphore, hein, que c'est ce qu'on répète plusieurs fois dans un discours.
Ça vous a choqué, un peu comme Ismaël El Hadjiri, justement?
Oui, parce que quand vous faites de tels anaphores, donc c'est volontaire, ça a été écrit, ça a été pensé, et l'anaphore, c'est pour absolument convaincre, en tout cas, que les gens entendent. Sauf que la dernière structure anaphorique sur le travail, elle date de Sarkozy, avec travailler plus.
Travailler plus pour gagner plus.
Et travailler plus pour gagner plus, mais surtout il fallait donc ça déroulait le tapis pour travailler plus sur le plan de la retraite.
Donc, un peu comme Ismaël, il était en campagne hier.
Alors c'est la ligne de crête qu'il a dépassée.
Oui.
Tout le monde. Moi je pensais qu'il allait rester, qu'il allait aller plus qu'aux trois quarts rester sur le Covid. C'est ce qu'on lui demande parce que être en dehors d'une allocution sur le Covid. Nous sommes trop proches des élections présidentielles qui ont quand même démarré, les primaires c'est bientôt, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc dérouler un tel discours, à la limite, je ne sais pas ce que vont en dire les institutions, mais on risque de le compter sur son compte de campagne.
Vous pensez vraiment? Non.
Si je peux ajouter un point là-dessus, c'est vrai que quand on regarde à l'aune des autres présidents de la République, on regarde Sarkozy par exemple, qui était beaucoup plus adepte, on va dire, des interviews où en fin de compte il y avait un contradicteur. Là, Macron, il va un peu plus loin et je trouve que c'est un peu dans la lignée de son quinquennat d'ailleurs. Par exemple, on l'a vu comme il a géré la crise sanitaire, a décidé tout seul, et ben là, il n'a pas non plus envie d'avoir un contradicteur. C'est-à-dire qu'il s'octroie 27 minutes devant plus de 20 millions de Français pour dérouler un bilan qu'on pourrait commenter et qu'on commentera d'ailleurs dans cette émission, je pense.
Oui.
Mais c'est quand même dingue de se dire qu'en 2021, un président de la République peut s'adresser aux Français pendant une demi-heure à moins de 6 mois des élections, sans contradicteur, en déroulant un argumentaire politique. Oui. C'était une allocution ou un meeting? C'est ça la question qu'on se pose.
Oui, allocution au meeting.
On pensait que c'était une allocution de santé publique, où là, tout le monde, ça transcendait tous ceux qui l'auraient écouté. On sait bien que ça monte un peu partout, le Covid. Mais sauf que sa neuvième intervention sur le Covid, elle vient quand même dans un peu plus d'un mois, il va intervenir pour les vœux. Et les vœux, on sait très bien que c'est aussi un discours politique avec des vœux politiques, vœux pieux ou non. Mais donc, c'est prendre le Covid comme prétexte de rester sur la ligne de crête et de parler politique.
Mais il était là aussi pour vanter son bilan, peut-être, non, en tant que président de la République. C'est peut-être le moment. Un meeting, c'est ça?
Oui, sauf qu'il crée un précédent. Alors, si c'est lui qui revient au pouvoir,
il était obligé d'évoquer les priorités
sur le Covid. Personne ne l'aurait trouvé à redire. Tout le monde voit que ça monte un peu partout dans le monde, qu'il intervienne. Bon, ça faisait, c'est la neuvième fois qu'il intervient sur le Covid de manière très légitime. Mais le fait qu'il parle très vite entre guillemets du Covid pour dérouler un bilan, ce que personne lui avait demandé hein, en ce début de mois de novembre, qui déroule un bilan plus des perspectives sur le mot travail,
ça, priorité,
une structure anaphorique. Donc il parle dans un mois et demi au niveau pendant entre Noël et jour de l'an.
Ah, c'est pas dans pas longtemps. Ismaël El Hadjiri.
Et justement, à propos de ce bilan, moi, je m'interroge vraiment de ce qui est en train de devenir Emmanuel Macron, même si on a toujours été lucide, en tout cas, sur le fait qu'il soit de droite. Enfin, quand on annonce en 2021 vouloir reconstruire des centrales nucléaires, est-ce qu'on s'adresse à toutes celles et ceux qui se mobilisent pour le climat? Quand on connaît la situation des jeunes, à savoir un jeune sur cinq qui est au chômage et qu'on prévoit un plan pour seulement 500 000 parmi eux qui sont les plus précaires et avec une allocation de 500 euros, est-ce qu'on a envie réellement de permettre aux jeunes de s'émanciper ? C'est, ça fait quand même froid dans le dos, hein, je pense.
Ouais.
Et moi, ce que je pense réellement, c'est qu'Emmanuel Macron, au final, à travers ce quinquennat qui a été tellement droitier, tellement réactionnaire, on pense aussi à la loi séparatisme, on pense à comment est-ce qu'il a divisé la population, il est obligé, on va dire, d'aller encore plus à droite que possible, d'aller encore plus à droite qu'en 2017, parce que les autres à côté, ils ne l'ont pas entendu. Et en fin de compte, les discours de droite d'Emmanuel Macron, c'est ce que prononce aujourd'hui Marine Le Pen, ce que prononce aujourd'hui Darmanin, c'est ce que prononce aussi la droite. On n'a pas parlé de la primaire de la droite, mais ça fait aussi froid dans le dos, en vérité, lorsqu'on entend parler de la droite. Mmh. Qui veulent supprimer la sécurité sociale, qui veulent encore plus de coupes budgétaires et de suppression de fonctionnaires dans la fonction publique, y compris dans les personnels de santé, même s'ils le disent pas, c'est ça la réalité de la mesure. On se dit vraiment, où est-ce qu'on va? Et j'ai l'impression qu'on n'a tiré absolument aucune conclusion de ce nouveau monde qui devait émerger post-Covid.
Ouais, ce nouveau monde, c'est vrai qu'il devait émerger.
Oui, parce que c'était un nouveau monde qui devait prendre en compte les questions sociales avec quand même un accent de gauche. Et son gouvernement ne trompe pas, parce que ceux qui sont de gauche sont très faibles au niveau des idées. Non seulement ils ne sont pas entendus, mais parce que leurs idées n'émergent pas. Et c'est plutôt les personnalités de droite qui sont encore chez LR qui font montre de son pouvoir.
Je parle
de ces ministres de gauche dans son pouvoir.
Ah, dans son pouvoir.
Oui, ils sont.
C'est que moi, j'en vois pas des ministres de gauche.
Oui, mais c'est quand même des personnes qui venaient des partis socialistes, mais qui n'étaient pas entendues au Parti socialiste. Donc, ils ont trouvé.
D'ailleurs, qui entend le Parti socialiste ?
Ils ont trouvé. Ils ont trouvé portefeuille et autres. Non, on peut pas dire que la gauche est puissante. On peut pas dire malheureusement que la gauche est puissante, ce qui lui permet aussi malheureusement de voir que la sociologie de la droite malheureusement monte en puissance, c'est-à-dire, je dis malheureusement parce qu'il n'y a pas un équilibre sur la question sociale, et on voit bien qu'on entend les primaires, d'ailleurs ce n'était pas un débat, c'était plutôt une soirée consensuelle de droite où s'appelaient tous bien sûr par le prénom, mais au moins ça c'était pas hypocrite, mais il va falloir vraiment que il y ait un équilibre. Je ne sais pas s'il va se réifier pour retrouver ce qu'il avait dit et annoncé en 2017. On arrive en 2022. En tout cas, il y aura beaucoup de déçus sur. Moi, je ne suis pas sûr que c'est lui qui participe à diviser les Français. C'est pas lui qui divise les Français.
Contrairement à ce que dit
Ismaël Haniyeh. Non, c'est plutôt Le Pen, Zemmour et la montée.
Le Pen est d'accord avec
la montée
aujourd'hui.
Et la montée. Et la montée réactionnaire. Oui, mais je ne compare pas Le Pen et Macron, ni Macron et Zemmour. Non, ce ne sont pas les mêmes. C'est pas du tout la même vision. C'est pas du tout le même discours. Là encore, il y a plus qu'une rue à traverser entre l'un et l'autre.
Si je peux me permettre de répondre, je suis d'accord. Hein. Zemmour n'est pas Le Pen. Marine Le Pen n'est pas Macron. En revanche.
Ah non, Zemmour n'est pas Le Pen. Moi, en revanche, je vois pas de différence. Je parlais entre Zemmour et Macron.
Je pense que ce sont trois personnes différentes pour répondre. En revanche, c'est cette idéologie qui veut toujours plus de profit qui pousse justement à ces formes qu'on peut qualifier de fascisme pour certains, réactionnaires pour d'autres, parce qu'ils se contiennent un peu. Mais au final, si on regarde les différentes présidences qu'il y a eu, on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, on a eu Macron, on a eu des présidents dits de gauche, dits de droite. Mais au final, la logique, elle est toujours la même. C'est celle du profit. Et moi, je pense que c'est cette logique du profit, dans un contexte où les gens, ils ont de plus en plus de mal à sortir la tête de l'eau, qui crée justement ces discours de division.
C'est vrai qu'on n'a pas quitté le néolibéralisme.
On ne l'a pas quitté. Le néolibéralisme, pour se maintenir, il monte la population les uns contre les autres. Et c'est ça le réel problème. Alors après, qu'on s'appelle Zemmour, qu'on s'appelle Arnaud Montebourg, parce qu'on pourrait parler de lui aussi,
comme
on peut s'appeler Macron, on dit les mêmes choses, mais on ne les dit pas avec le même langage. Mmh. C'est ça, en fait, moi, le constat que je fais.
Non. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je fais une différence entre Zemmour et Le Pen et Macron. Il y a quand même une histoire, quand même, du Front National. Donc, on ne peut pas.
Sur l'histoire, je suis complètement d'accord.
L'histoire et l'actualité.
Il faut se souvenir, quand même, quand dans un débat, Marine Le Pen face à Darmanin se permet de dire à Le Pen qu'elle est trop molle. C'est ça l'élément de langage qu'il avait dit. Il l'avait accusé d'être molle. Et Marine Le Pen n'avait rien réussi à redire là-dessus. Bon. Moi, je pense qu'il faut oublier.
Oui, mais si on s'arrête sur tous les ministres de l'Intérieur de tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, on peut les assimiler parfois dans leur posture et position à des postures réactionnaires.
Alors, très intéressant, effectivement, ça donne envie de poursuivre. De toute façon, on est là, hein, on va couvrir la campagne donc, présidentielle. Messieurs, juste dernier sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui, c'est le Covid-19, la Covid-19. Est-ce que la remontée aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est perceptible? Est-ce qu'il y a un appel à la vigilance, messieurs, oui ou non? Jean-Claude Félix Tshikaya et ensuite après Ismaël El-Hadjiri.
Oui, je pense qu'il faut, avoir l'intelligence de la vigilance.
Est-ce qu'il y a des signes d'alarme?
Oui, les chiffres.
Les chiffres,
en fait, oui. on fait tous attention.
Pourquoi le taux d'incidence remonte?
Pour nos proches, le voisin, voilà, responsabilité. On n'a pas envie de manière involontaire, en tout cas, qu'une personne puisse avoir le Covid ou même nous-mêmes. Donc on fait attention, on est un petit peu encore acculé en pensant que c'était, terminé ou que ça allait vers son épilogue.
Donc on remet les masques et les gestes barrières.
Voilà, là-dessus, honnêtement, j'ai pas trop de choses à dire. Je laisse la parole plutôt aux médecins et aux spécialistes parce que c'est tellement.
Oh, quand même, oui. Ismaël El-Hadjiri.
Sur le constat, je fais la même chose. Je laisse aussi la parole.
Non, mais là, on parle pas de sur le volet. On parle pas sur le volet scientifique.
Moi, on va dire plutôt que. Est-ce que le retour du coronavirus m'étonne? Pas vraiment. Moi, je crois les médecins, encore une fois, et on nous dit que la seule solution, c'est la vaccination. Sauf qu'on est dans une crise qui est globale. Et donc, du coup, il ne suffit pas d'être 80% de vaccinés en France pour qu'on oublie le coronavirus. Il faut des vaccins pour tout le monde, et y compris pour tous les pays, quand je dis tout le monde. Et donc, du coup, moi, plutôt le message que j'ai envie de faire passer, si l'un des tenants de la politique sanitaire française nous écoute ce soir, j'espère, et j'en doute pas, c'est de se mobiliser pour rendre accessible le vaccin pour tout le monde, en vérité. Tout le monde mérite d'avoir le vaccin, et je vais peut-être pas me faire que des amis, mais moi, en fait, je serais même pour... Alors, ça supposerait, bien sûr, qu'on comprenne plus qu'est-ce qu'est le vaccin, qu'on puisse prendre les décisions avec les gouvernants, mais moi, je serais même pour une obligation vaccinale, en vérité.
Il faut sortir de ça, et notamment, là, on parle...
Et c'est le jeune rebelle qui dit ça.
Non, parce que...
Il a
tout à fait raison. Si on prend un continent comme l'Afrique, où il y a aussi des réfractaires à l'intérieur, mais il y a aussi une inégalité de possibilité de se vacciner, bon, c'est pas seulement dû au Covid, hein. Il y a beaucoup de problématiques politiques et de santé publique et d'infrastructures publiques, mais l'obligation aurait, quelle que soit la présidence, si c'était mondial, et ben que tout le monde puisse se vacciner et que les opposants puissent s'opposer pour mettre en place une politique de santé publique.
Et effectivement, le mot d'ordre, je crois que le message est passé. Merci Ismaël El-Hadjiri, vous reviendrez, militant associatif engagé, effectivement, vous reviendrez quand vous voulez. Dès que possible, Jean-Claude Flichikaya, chercheur au sein de l'IPSE, merci également.
Je
vous souhaite un long week-end, ou vous bossez vendredi?
Moi, je travaille vendredi.
Ah, et vous?
Et moi également.
Également. Donc, alors,
tu vois, on est comme Emmanuel Macron, on est pour la valeur travail.
Alors voilà, exactement. Donc reposez-vous bien demain.
C'est une blague, bien sûr.
Nous aussi, on va se reposer demain. Et la réalisation, c'était Yanis. J'allais dire à demain, mais non, à vendredi. À vendredi. Prenez soin de vous, on ne lâche rien. Tout de suite, c'est Time Sport, 20h-21h. Avec Bilal Nedman. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.